Alors, on va faire comme au début du chapitre 2. Il y a plein de personnages, donc on va s'y attaquer. On commence par l'empereur Tibère, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Bon, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire qui vienne illustrer et permettre de mieux comprendre le texte, si ce n'est que Tibère a bien été empereur de l'an 14 à l'an 37, mais après, il n'a pas plus d'importance que ça. En revanche, Ponce Pilate, qui arrive juste après, gouverneur de la Judée, lui, il nous intéresse. Alors, son véritable titre, ce serait préfet. Mais bon, ça, c'est assez anecdotique parce qu'on a retrouvé des documents dans lesquels il est nommé préfet de Judée. Et donc, il l'était de l'an 26 à l'an 36. Donc, je vous rappelle que la Judée, ça peut désigner soit la petite région que vous avez sur la carte, la région de Judée, soit. D'une manière plus large, le pays des Juifs. Mais désormais, le pays des Juifs, à l'exception de la Galilée, c'est-à-dire la Judée administrative et la Samarie. Parce que, vous l'avez entendu, la Galilée, désormais, elle est au pouvoir d'Hérode. La Judée, hein, elle était donc, quand je parle de Judée, je parle de Judée-Samarie ensemble, sous administration directe de Rome, depuis. L'an 6, parce que en gros, Hérode a mis trois de ses fils au pouvoir. Celui qu'il avait mis au pouvoir sur la Judée-Samarie, c'est Archélaos, et Archélaos a été exilé. Donc ses frères étaient super contents, parce que ça veut dire qu'ils espéraient pouvoir agrandir leur territoire, mais c'était sans compter sur les Romains, parce que les Romains ont gardé ça pour eux. Et ils ont envoyé Ponce Pilate. Enfin, ils en ont envoyé d'autres avant, mais en tout cas, c'est Ponce Pilate qui fait cet office au moment du ministère public du Christ. Maintenant, Hérode, à ne pas confondre avec le premier Hérode qu'on a déjà rencontré. On nous a parlé pour l'instant d'Hérode le Grand. Il s'agit ici de son fils Hérode, qu'on va appeler Hérode Antipas. Et donc, Hérode Antipas devient, à la mort de son père, vers l'an moins 4, Tétrarque de Galilée. Donc, ça vous permet, avec le document, de voir le découpage. Samarie, Judée, Ponce Pilate, Galilée, Hérode Antipas. On continue. Philippe. Philippe, c'est le demi-frère d'Hérode Antipas. Donc, c'est lui aussi le fils d'Hérode le Grand. Et donc, lui aussi, à la mort d'Hérode le Grand, vers l'an moins 4, va devenir tétrarque, et lui va devenir tétrarque d'Iturée et de Traconitide, qui sont des territoires païens. Donc vous voyez, l'Iturée, c'est tout au nord, et puis la Traconitide, c'est tout à l'est, nord-est, on va dire. Donc là, c'est vraiment les territoires païens. Le cinquième personnage, Lysanias. Alors c'est un personnage qui est très peu connu, en fait. On n'a pas beaucoup d'informations sur lui. C'est Lysanias II, parce qu'il y a déjà eu un Lysanias avant, qui est son prédécesseur, mais on n'est pas sûr que ce soit son père, puisque certains historiens pensent qu'en fait, ce serait un fils, lui aussi, d'Hérode le Grand. Mais d'autres pensent que c'est le fils du premier Lysanias. Donc en fait, il y a beaucoup de spéculations autour de lui, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait juste qu'il règne sur l'Abilène, et donc c'est pareil, vous voyez, l'Abilène, c'est juste à côté de l'Iturée, c'est un territoire païen. Maintenant, la mention des grands prêtres, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. Il y a un seul grand prêtre. Alors pourquoi est-ce qu'il est écrit les grands prêtres étant Anne et Caïphe? En fait, il n'y a que Caïphe qui est le grand prêtre. Anne, c'est le beau-père de Caïphe et c'est un grand prêtre émérite. Voilà. En fait, avant, enfin, je vais vous expliquer, il faut que je prenne les choses dans l'ordre, mais il fut un temps où les grands prêtres étaient des grands prêtres à vie. Et puis, petit à petit, ils sont devenus à la solde. Du pouvoir, et donc ils sont faits et défaits. Voilà. Donc il peut y avoir, au temps de Jésus, des grands prêtres émérites, et Anne en est un. Donc jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, les grands prêtres étaient nommés suivant une règle simple, le caractère héréditaire. Donc les grands prêtres étaient des descendants de Sadoc. Donc Sadoc, c'est le premier grand prêtre, celui qui a été établi grand prêtre par le roi Salomon, donc vous savez qui est le roi le plus sage d'Israël, et Sadoc est lui-même un descendant d'Aaron. Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé d'une descendante d'Aaron, Élisabeth. Donc, les grands prêtres sont, de manière héréditaire, grands prêtres parce qu'ils descendent de Sadoc. Et puis, à partir de l'an 140 avant Jésus-Christ, on en a déjà parlé la dernière fois, il y a une nouvelle dynastie, et cette dynastie, ce sont les Asmonéens. Et les Asmonéens, ils vont s'arroger la fonction alors qu'ils ne sont pas de la lignée de Sadoc. Donc déjà, ça crée des tensions. Déjà, la légitimité des grands prêtres est mise en cause. Mais c'est encore pire par la suite. Parce que Hérode le Grand, dont on a parlé la dernière fois, une fois qu'il va être nommé roi des Juifs par le Sénat romain vers l'an moins 40, il va lui-même s'arroger le pouvoir de nommer et de révoquer les grands prêtres. Donc autant dire que les grands prêtres ont quand même perdu beaucoup de crédit aux yeux des juifs pieux. On en parlera plus tard. Il y a trois grands courants de judaïsme à l'époque, qu'on appelle aussi parfois des sectes, mais pas au sens des sectes comme on l'entend aujourd'hui. Hein. C'est vraiment trois courants, trois écoles. Parmi ces trois courants, il y a les Esséniens qui n'apparaissent pas dans les évangiles, mais on sait qu'ils ont existé, on ne manque pas de traces. Et les Esséniens refusaient d'aller à Jérusalem parce qu'ils considéraient que le temple était souillé par la présence des grands prêtres, puisqu'ils n'étaient pas des descendants de Sadoc. Donc vous voyez un peu l'ambiance, quoi. Et puis, le grand prêtre, aussi, c'est celui qui dirige le Sanhédrin, le tribunal et l'assemblée législative des Israélites. Et le Sanhédrin, bien sûr, on garde ça dans un coin de la tête parce qu'on sait qu'on va retomber sur ce mot vers la fin de l'Évangile. Juste après la mention d'Anné et Caïphe, il est écrit « La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. » La dernière mention de Jean, on l'a relue tout à l'heure, chapitre 1, verset 80. « Il grandit, très bien, et il va dans le désert. » Donc on a quitté Jean dans le désert, où il devait se fortifier jusqu'au jour où il allait se faire connaître à Israël. Eh bien, ça y est, ce jour est venu. Et comment est-ce qu'il se fait connaître? Eh bien, notamment en proclamant un baptême de conversion. Ça, c'est le verset 3. Et je reviens évidemment sur le mot baptême, parce que nous, quand on entend baptême, évidemment, on pense au baptême qu'on a reçu, au baptême de la foi catholique. Mais là, il faut aller regarder le mot grec, parce que baptême, ça vient du grec baptizein, et c'est un mot qui signifie « immerger ». Alors, on pense aujourd'hui, nous, à ce baptême par immersion, hein, bien sûr, mais ça a aussi une résonance dans la pratique cultuelle juive. Et ce baptême, donc, de Jean, n'est pas tant à rapprocher du baptême que nous, on connaît, que de, justement, cette immersion dans la pratique cultuelle juive. Parce que les Juifs allaient dans ce qu'on appelle des mikvaot, un mikvé, des mikvaot, allaient dans des mikvaot, c'est-à-dire des bains rituels, pour pouvoir se purifier. Alors, il y a quelques règles. Hein. Il faut que, dans ces bains, l'eau ne soit pas arrivée de manière artificielle et que l'eau ne soit pas stagnante. Donc, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. On avait été, là, avec l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, voir, on était invité sur les fouilles actuelles au pied du temple. Et donc c'était marrant parce qu'il y a un moment donné, il y avait une espèce de bâche qui était tirée. Et évidemment, qui dit bâche tirée, dit on a envie de regarder ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est secret et qui est caché. Et en fait, derrière, c'était juste un mikvé. Et donc s'ils avaient mis une bâche, ça veut dire qu'il y a des gars qui allaient faire ce bain rituel même ici. C'était un ancien bain rituel qui était toujours utilisé. Et comme on se met nu pour se plonger sans qu'un seul des cheveux ou un seul poil ne dépasse de l'eau, bah, il vaut mieux effectivement se cacher. Parce que le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il existe des bains, des mikvaot, je veux dire, comment dire, standardisés. Un peu comme si on voulait, quand vous êtes allé à Lourdes, les piscines de Lourdes, en fait, ça ressemble un peu à ça. Et donc, on peut très bien y aller. Sauf que quand on y va, c'est qu'on a besoin d'être purifié. Il y a quelqu'un qui tient le mikvé. Donc, on n'a pas toujours envie que les autres sachent qu'on a besoin d'être purifié. Sauf quand c'est le moment, un moment donné avant son mariage ou avant les grandes fêtes comme Yom Kippour. Mais si on y va à un autre moment, ça veut dire qu'il y a un problème et on n'a pas envie que tout le monde le sache. Donc, il arrive que les Juifs aillent trouver un endroit où l'eau est arrivée de manière non artificielle et où l'eau n'est pas stagnante, et puis se baignent dedans, se plongent dedans en récitant la prière nécessaire pour recevoir la purification. Un petit conseil qu'on m'avait dit quand je suis arrivé à Jérusalem, il ne faut pas aller chercher dans les parcs les endroits où il y a de l'eau. Si c'est un petit peu caché, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de prendre un bain purifiant. Alors, proposition de lecture. Juifs et païens sont désormais réunis. À 30 ans d'écart, Luc nous propose, au début du chapitre 3 comme pour le chapitre 2, un regard sur la politique locale. Et force nous est de constater que ce que l'évangéliste met en avant, ce sont les païens. Et donc j'ai fait exprès à chaque fois de bien vous redire que c'était des territoires païens. L'Ituraie, la Traconitide, l'Abilène. On a même l'empereur Tibère, on a le préfet ou gouverneur Pilate. On a donc les tétrarchies d'Iturée, de Traconitide, la Bilène, et en contraste, on trouve une Judée qui est séparée de la Galilée, on trouve des grands prêtres qui sont en manque de légitimité. On a donc deux mondes qui se côtoient, le conquérant païen, qui vient avec souci son paganisme, et puis le fragile et divisé peuple juif. Et en même temps, il ne faut pas s'y tromper. Si Luc dépeint ainsi la situation, s'il utilise ce tableau, à nouveau, c'est pour mieux faire ressortir autre chose. C'est la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui, selon l'oracle d'Isaïe, doit préparer le chemin du Seigneur en rendant droit les sentiers, afin de préparer tout être vivant à voir le salut de Dieu. Et donc, on voit bien comment est-ce que Luc met d'un côté les païens, de l'autre côté les juifs, mais que l'oracle dit, c'est tous les êtres vivants. Et donc, avec Jean, le salut est déjà promis au-delà du peuple élu, à toutes les nations. Et ce salut est issu du petit peuple juif, dont la situation politique est bien précaire. Mais le cantique de Siméon commence à s'accomplir. Le baptême de conversion de Jean n'attire pas que des juifs. Et on le voit, Luc le précise bien, Luc insiste, il mentionne les publicains, il mentionne les soldats. Et tous, ils viennent auprès de Jean le Baptiste. Alors maintenant, au-delà de ce baptême de conversion, comment est-ce que Jean prépare la venue des seigneurs? Eh bien, par la prédication. Il appelle au partage, il appelle à la justice, il appelle à la paix. Et autour de ces trois choses, le partage, la justice et la paix, il réunit les juifs et les païens. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais de dialectique entre peuple élu païen, eh bien, on voit bien comment est-ce que cette dialectique n'a pas pour but de mener à une division, mais de mener à l'unité. On préserve, il y a une altérité, on préserve la spécificité de chacun. Chacun a son appel. L'appel du peuple élu n'est pas l'appel des nations, mais il y a une unité parce que ces deux parties sont appelées à un même salut. Bon, il ne faut pas que je m'étende de trop parce que il nous reste 15 minutes pour faire les derniers versets. Alors on va y aller tout de suite.